Nairi Boudet, sexothérapeute et thérapeute de couple, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle. Quel va être le thème de notre émission ?
Eh bien aujourd'hui, en cette période de rentrée, j'ai choisi de parler de la vie à deux pour les personnes qui sont en couple notamment.
La vie à deux, ça n'est pas une mince affaire. Ça commence par quoi les bases pour arriver à trouver, parce que je suppose qu'il faut quand même arriver à trouver au départ une harmonie.
Et c'est là peut-être que c'est important de pouvoir se poser certaines questions. C'est-à-dire que souvent, on se laisse un petit peu porter par le plaisir que l'on a à vivre la lune de miel. On se dit que l'on aimerait vivre dans le quotidien avec la personne aimée, avec la personne qui nous manque tant lorsqu'elle n'est pas à nos côtés. Eh bien, la confrontation au réel est un peu loin parfois de l'idéalisation. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas vivre avec la personne que l'on n'aime pas du tout, puisque la vie commune, c'est une manière déjà de faire famille et aussi d'apprendre à se connaître dans des moments dans lesquels on ne se donnerait pas forcément à voir sinon. Et en même temps, cette quotidienneté empêche parfois les personnes de se donner à voir dans leurs côtés les plus brillants, parce qu'on se laisse emporter par le quotidien. Donc c'est une décision qu'il est important de vraiment réfléchir en amont. Pourquoi avons-nous envie de nous installer ensemble? Qu'est-ce qu'on pense que ça peut apporter de plus à notre relation? Quelle est l'idée de la relation que nous avons? Et ensuite de voir si la vie en commun, ça peut apporter quelque chose qui va dans ce sens ou pas. Mais il est vrai que dans notre société, on a tendance à valoriser ce modèle-là. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Par contre, je constate souvent que les personnes que je reçois au cabinet qui se sont installées assez rapidement ensemble, n'ont pas vraiment vécu de période de lune de miel. La période de lune de miel s'en trouve écourtée du fait de cette fameuse confrontation au réel. Encore une fois, la confrontation au réel n'est pas forcément problématique. Le fait d'être grognon le matin ou un peu chafouin le soir lorsqu'on rentre du travail, c'est pas forcément rédhibitoire ou ça conduit pas forcément le partenaire à se dire « Oh là là, j'aurais mieux fait de rester célibataire ou d'habiter seul mon appartement ou ma maison. » Mais c'est que du coup, ça change la donne. Et le fait d'avoir vécu une période de lune de miel intense et où on a appris à tisser un lien de confiance sur le long terme, ça permet, lors de l'installation, justement, de ne pas être trop déçu aussi et d'accepter que la relation change et que ça peut être pour le mieux.
Est-ce qu'il faut être prêt à partager? Est-ce qu'il faut vouloir partager? Est-ce que la condition fait partie un tout petit peu de la donne?
Ce que vous dites à propos du partage est intéressant. Ça me fait penser à quand on est enfant et qu'on a un petit frère ou une petite sœur qui naît. C'est-à-dire que désormais, les jouets ne sont plus qu'à moi. Je ne fais pas que ce que je veux. Pas parce que l'autre m'y contraint, mais parce que la présence de l'autre ajoute quelque chose. Et je peux choisir de faire mes petites choses dans mon coin, mais quelque part, l'autre reste présent. Donc, quelque part, il faut apprendre à partager, pas que les objets, pas que le temps, mais aussi à se partager soi, entre des moments à soi, dans l'intimité, et des moments dédiés à l'autre. Parce que chacun fait comme il peut, évidemment, avec les contraintes du quotidien. Je pense à la vie professionnelle, à la vie familiale aussi, à la vie sociale, à laquelle on a envie de donner une place aussi. Et ne parlons pas de la vie sportive ou culturelle. Mais en tout cas, si l'on ne consacre pas un minimum de temps à sa relation, y compris dans sa quotidienneté, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des surprises qui puissent exister dans ce quotidien, alors c'est vrai qu'on peut assez rapidement se perdre de vue. Encore une fois, pas forcément besoin de crier urgence. Il y a des périodes de la vie lors desquelles on fait face à tellement de difficultés qu'effectivement la relation conjugale pas forcément en dernier, mais pas en premier en tout cas, quand on doit lutter contre la maladie par exemple, ou lorsqu'on a affaire à un deuil, ou lorsqu'on est complètement animé par une nouvelle opportunité professionnelle, voire une nouvelle amitié. Mais forcément, ça a des conséquences sur la relation, et le fait d'habiter ensemble conduit aussi à avoir moins de temps pour conscientiser tout ça. Là où le fait d'habiter séparément conduit en fait les personnes à vraiment choisir le moment lors duquel elles vont vouloir relationner et donc à fantasmer ce moment, à imaginer ce qu'elles aimeraient faire lors de cette rencontre, à avoir hâte en fait, et puis à ressentir le manque.
Dans la vie à deux, comme vous l'avez dit, c'est toute une façon de vivre qui va animer le couple donc. À quel moment la sexothérapeute que vous êtes intervient-elle dans cette vie à deux ? Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu des motifs qui sollicitent votre présence ?
Oui, je crois que le premier motif de consultation, c'est peut-être finalement les disputes. Et les disputes peuvent inclure des problématiques d'ordre sexuel. Parce que là, on revient en fait aussi à une histoire de quotidienneté. Lorsqu'on se couche tous les soirs dans le même lit, et encore une fois, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'est pas bon de dormir avec la même personne tous les soirs, mais lorsqu'on se couche tous les soirs dans le même lit, on sait que demain, on va retrouver le partenaire. Et après-demain, et après-après-demain, il y a donc moins de surprises. C'est aussi une bonne chose parce que du coup, ça permet de créer un véritable climat de confiance. On peut se dire, ce soir, je vais retrouver mon meilleur ami, ma douce confidente dans mon lit et on va pouvoir se parler et se câliner, et éventuellement faire l'amour. Mais en tout cas, il est vrai que c'est difficile, et donc on revient à la question que vous me posiez, il est difficile de maintenir un désir foudroyant, actif, dans quelque chose qui relève de la quotidienneté. Et ça, c'est quelque chose qui touche quand même énormément les couples qui viennent en consultation, qui ressentent aussi beaucoup de tristesse vis-à-vis de la manière dont ils avaient envisagé ce que pourrait être leur vie conjugale, leur vie à deux, voire leur vie familiale. On grandit dans une société où on est tous portés, moi la première, hein, je n'y échappe pas, on est porté par cet idéal romantique de ce qu'est la relation conjugale. On se dit, mais à partir du moment où on habitera ensemble, on pourra faire de grandes choses et on sera heureux et on apprendra à se connaître dans les plus petites choses. Et c'est vrai qu'on apprend à se connaître dans l'intime, mais cet intime-là du quotidien n'est pas forcément celui qui est le plus représentatif, c'est ça que je veux dire. Parce que parfois, eh bien, je travaille avec des personnes qui finalement vont donner à voir ce petit truc particulier, cette petite touche de surprise, plutôt à d'autres, ces autres qui ne vont pas être dans le quotidien, plutôt qu'au partenaire ou à la partenaire qui est lui ou elle bien présente dans le quotidien. Donc finalement, des fois, le fait de vivre à deux conduit finalement les personnes à moins se connaître, aussi incongru que ça semble être. C'est-à-dire on apprend à plus se connaître que dans une histoire de gestion, plutôt que dans une histoire de surprise. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va pouvoir préconiser en tant que thérapeute ? Ce sont des moments où les personnes vont pouvoir se rencontrer en dehors du logis, en dehors des enfants, dans des expériences qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire. Mais bon, la plupart des gens ne peuvent pas partir tous les week-ends à Bali, vous voyez. Et d'ailleurs, ce serait peut-être une erreur de ne compter que sur les voyages éphémères à Bali pour construire un lien.
Dans la relation à deux, j'ai l'impression que le sentiment de possession peut vite entrer aussi dans le circuit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faut arriver vite à exclure ou on est forcément à un moment donné peut-être confronté à ça, la possession de l'un vis-à-vis de l'autre ?
Ce que vous dites est vraiment très intéressant parce qu'en effet, avec les personnes avec lesquelles je travaille, le fait de pouvoir habiter à deux est non seulement quelque chose qui est présenté comme rassurant, mais ça peut être aussi un moyen de contrôle. C'est-à-dire que celui que l'on aime, celui que l'on désire, celui que l'on veut, eh bien, on sait désormais quels sont ses allées et venues. Après, le but affiché n'est pas ça, hein, n'est pas le contrôle. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est rassurant là-dedans ? Bah, c'est de savoir aussi ce que l'autre fait de sa vie, vous voyez ? Et effectivement, cette dimension de possessivité, c'est pas ce qui est recherché par les personnes a priori. Enfin, je veux dire, vous posez la question à n'importe qui dans la rue, personne vous dira « j'ai envie de maîtriser totalement mon partenaire ». Les gens aiment la spontanéité. En revanche, la vie à deux permet d'être moins confronté à des incertitudes. Notamment, par exemple, quand on est jeune, je travaille avec des couples de jeunes personnes qui sont étudiants, qui sortent en boîte, qui partent en festival ou en vacances avec des amis. Là, ça introduit une certaine dose d'incertitude. Et que dire aussi des messages qui peuvent être changés avec d'autres personnes. Donc, je ne dis pas qu'il faut choisir la vie à deux afin de garantir qu'il n'y ait pas de tromperie, de dissimulation, parce que ça peut être tout à fait le cas, et l'expérience en cabinet me le montre aussi. Mais en tout cas, je pense que c'est important de vraiment se poser la question de ce qu'on recherche avec cette idée de vivre à deux, parce que c'est quand même une convention. Et le fait de ne pas suffisamment s'interroger à l'avance à propos de ce que ça peut signifier pour les personnes individuellement et pour le couple, eh bien, ça conduit quand même des personnes, au bout d'un moment, à se dire « Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis sur le bon chemin ?» Et à ce moment-là, quand tout est imbriqué, l'argent, les possessions matérielles, à ce moment-là, souvent, ce que j'observe, c'est que la seule issue semble être la fin de la relation. Alors que ça peut être intéressant dès le départ de se poser la question de quelle relation nous avons envie d'avoir et en quoi la vie à deux peut nous mener vers cet idéal relationnel ou pas. Et quand je parle d'idéal relationnel, c'est pas forcément une vision idéalisée et fausse, c'est juste qu'on a tous besoin d'idéaux pour nous guider. On fait nos petits trucs, mais avec un petit plan dans la tête, si vous voulez.
D'après vous, Nahiri Boudet, est-ce que la complémentarité dans le couple est indispensable ou peut-être il vaut mieux avoir une réflexion qui va converger et qui va peut-être également prendre des chemins parallèles, mais pas forcément complémentaires? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est une question complexe, mais je crois que la sociologie nous dira que souvent c'est quand même plus facile d'évoluer avec des personnes qui nous ressemblent. Et je crois qu'on le voit aussi avec nos amis. On parlait de vacances tout à l'heure. Ben, lorsque vous partez en vacances avec des amis qui ne vous ressemblent pas tellement, ça peut se révéler complexe. Voilà, parce que ça demande énormément d'adaptation. C'est pas facile. Alors forcément, c'est plus facile d'évoluer dans le quotidien avec quelqu'un qui nous ressemble. Le problème, c'est que du coup, cet autre qui nous ressemble va moins nous amener à nous interroger sur nous-mêmes. C'est là où il est important d'être confronté à la différence. Sauf que être confronté à la différence en permanence dans le quotidien, c'est rude. Parce qu'on peut vivre les remarques ou les interrogations de l'autre comme des reproches. Et lorsque vous rentrez le soir fatigué et que vous avez envie de vous occuper des enfants ou pas envie, et juste envie de vous asseoir sur le canapé pour téléphoner à vos amis ou chiller avec Netflix, c'est pas évident d'avoir quelqu'un en face qui vous ramène au fait que votre manière de faire est interpellante. Donc, si les personnes ont beaucoup de différences, ce n'est pas forcément problématique, c'est extrêmement enrichissant, parce que du coup, on ne se sclérose pas, on ne se caricature pas, on peut évoluer, s'inspirer aussi de l'autre qui est différent, mais à ce moment-là, le fait d'habiter en des lieux qui sont différents peut nous amener à nous connecter à certains endroits lorsqu'on se retrouve, à nous enrichir mutuellement, et en même temps de ne pas nous confronter à la difficulté de la différence dans le quotidien. Même si c'est important de pouvoir faire cet exercice-là, encore une fois, n'importe qui vous dira que si vous ne traînez qu'avec des personnes qui partagent votre avis, bah, au bout d'un moment, vous n'allez plus qu'imaginer que le monde doit marcher comme ça. Et dès que vous mettez un pied hors de ce que le développement personnel appelle votre zone de confort, vous êtes complètement secoué. Donc c'est important de côtoyer la différence, mais le fait de la côtoyer dans le quotidien, c'est quand même assez énergivore. Donc les personnes qui sont, elles, plutôt complémentaires, peuvent trouver beaucoup plus facilement à évoluer dans le quotidien. Néanmoins, les personnes qui sont complémentaires à tous les niveaux, je ne connais pas. Parce que aussi l'être humain change. Et on peut être complémentaire à 20 ans et être différent à 40. Parce que chacun a aussi des trajectoires de vie qui les façonnent.
Pour que la vie à deux soit, disons, harmonieuse, est-ce que vous conseillez de mettre carte sur table? Ou parfois, peut-être avoir une réserve et puis pouvoir expliquer que non, cette soirée, je n'irai pas, parce que moi, je n'ai pas très envie, mais vas-y seul. Qu'est-ce que vous entrevoyez dans des positions comme ça?
Oui, je pense que c'est important. Bien sûr, on a peur de l'exclusion et il est vrai ce que vous disiez, par exemple, tout à l'heure à propos des soirées. Être en couple, ce n'est pas que être à deux. C'est aussi être à deux devant les autres. Donc, c'est être à deux devant la belle famille lors du déjeuner du dimanche. C'est être à deux à l'anniversaire du cousin le samedi soir. C'est être à deux à l'inauguration du nouveau magasin du centre-ville, d'y aller ensemble et de se présenter ensemble aux gens que l'on côtoie tous les jours, mettons que l'on travaille en centre-ville soi-même. Donc, en même temps, c'est important de pouvoir se présenter en couple devant les autres, mais quand même, je pense, de ne pas être trop enfermé dans cette idée de ce que doit être le couple, parce qu'en fait, tout le monde finit par en souffrir et se sentir prisonnier de cette identité-là. Alors, les gens font comme ils peuvent, ils essayent d'avoir une vie individuelle à côté, certains sont infidèles, certains vont cultiver des amitiés importantes ou des centres d'intérêt qui vont beaucoup leur prendre ou une vie professionnelle qui va beaucoup leur prendre. Mais si on arrive à avoir cette clairvoyance dès le départ, en disant « voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que j'ai envie de construire avec toi, voilà comment je pense que je peux construire une vie bonne pour moi en étant à tes côtés », forcément ça fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression que si jamais on met des limites à la relation pourrait ne pas exister, alors que la relation est perçue comme quelque chose de sécurisant, mais c'est peut-être le meilleur moyen en fait de s'engager en toute confiance dans un lien conjugal en l'occurrence. Bien sûr, si mon compagnon ou ma compagne me demande de m'installer avec elle ou avec lui et que je lui réponds que je ne le souhaite pas ou que je souhaite prendre le temps de réfléchir, je pourrais craindre de le ou la blesser. Et c'est là que c'est important de pouvoir vraiment marquer un temps d'arrêt et d'essayer d'avoir une pensée complexe et de traduire avec les mots les plus nuancés possibles ce qu'on ressent, ce qu'on pense, de manière à conduire l'autre aussi à s'interroger à propos de ce qu'il désire vraiment. Parce qu'encore une fois, comme on le disait au début de cet entretien, la vie à deux apparaît comme une évidence. On s'aime, on vit ensemble. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas, ça peut être chouette, mais par contre, ça n'est pas une évidence. Et donc, se poser la question, en fait, c'est aussi se donner la meilleure chance de pouvoir vivre une vie conjugale harmonieuse, que l'on vive ensemble ou pas.
Nahiri, merci de nous emmener si loin sur ces chemins de la réflexion. Nous vous retrouvons le mois prochain. Un grand merci. On va rappeler les différentes adresses.
Eh bien, je remercie tous les auditeurs de cette émission en espérant qu'elle aura stimulé leur réflexion. Je propose aux personnes qui sont intéressées par l'idée de venir à mon cabinet ou d'avoir des informations de me contacter au 07 49 92 31 65 ou elles peuvent se rendre sur mon site internet www.nbsexothérapie.com ou encore se rendre à mon cabinet uniquement sur rendez-vous au 17 allée des Genêts dans la zone commerciale de Sisteron ou au 7 rue de la Clarée à mon cabinet de Gap.